Chapitre 36. Callan se frayait prudemment un chemin dans les ruines de très vieux bâtiments dont les millénaires avaient fini par avoir raison. Des tonnes de gravats avaient roulé sur le versant abrupt de la colline, mais il en restait encore assez sur le site pour que la progression soit difficile. Dans l'obscurité, trébucher et tomber était un risque évident, et dévaler involontairement le flanc de cette colline ne disait rien à la prisonnière des Sœurs de l'Obscurité. Devant Callan, Ulyssia, Armina et Cecilia, Gillian se jouait des difficultés avec l'aisance d'une chèvre des montagnes. Les trois sœurs haletaient et elles avaient de plus en plus de mal à avancer. Si pressées qu'elles soient d'arriver à destination, elles étaient au bord de l'épuisement, glissaient fréquemment et prenaient presque en permanence le risque d'une chute mortelle. Selon Callan, il aurait été raisonnable d'attendre le lendemain matin pour terminer l'ascension. Mais elle n'allait sûrement pas donner un si bon conseil à ses tortionnaires. De toute façon, les sœurs n'en faisaient qu'à leur tête. Si elle s'en mêlait, ça lui vaudrait une nouvelle correction et rien de plus. Bien entendu, la prisonnière aurait été ravie qu'une des trois femmes tombe et se brise la nuque. Mais les deux survivantes auraient quand même continué à la dominer. Toutes les trois contrôlaient l'affreux collier que la jeune femme portait autour du cou et c'était amplement suffisant pour faire un cauchemar de sa vie. Stoïque, Callan grimpait sans émettre de commentaires. Le chemin indiqué par Gillian étant des plus périlleux, les chevaux attendaient sagement au pied du promontoire. Les sœurs ne se séparant jamais de certains objets, utilitaires pour la plupart, mais il y avait aussi dans le lot de précieux artefacts, Callan avait été transformée en bête de bât. Chargée comme un baudet, elle avait encore plus de mal à négocier les difficultés du chemin. Gillian avait proposé de l'aider, mais les sœurs avaient refusé. Callan était une esclave, après tout, et qui songerait à améliorer le sort de ces débris d'humanité. Au lieu de s'apitoyer sur la prisonnière, Gillian devait les conduire au plus vite auprès de Tovi, car l'urgence était là. D'un regard, Callan avait incité sa nouvelle amie à obéir. En peinant sous le poids de sa charge, elle avait vite trouvé une consolation. Des efforts pareils la rendaient chaque jour un peu plus forte, alors que les sœurs, rétives à tout ce qui exigeait un peu de courage, s'affaiblissaient très régulièrement. Callan voulait rester en forme et devenir de plus en plus forte. Un jour, elle aurait besoin de ses muscles, c'était certain. Mais en attendant, la journée avait été longue et elle commençait aussi à tirer la langue. Par bonheur, l'éprouvant voyage touchait à sa fin. Très bientôt, les quatre sœurs seraient réunies. Avec un peu de chance, ça lui adoucirait le caractère. Bien qu'elle eût besoin d'un ou deux jours de répit, Callan n'avait guère envie de voir ses geôlières se réjouir parce que ça n'augurerait rien de bon pour elle et pour le reste du monde. Les sœurs semblaient convaincues que le triomphe était proche pour elles. Une nouvelle ère allait commencer, se disaient-elles souvent pour s'encourager. Sans savoir ce que ça signifiait exactement, Callan était morte d'inquiétude. Les sœurs parlaient beaucoup de la récompense qui était désormais à portée de leurs mains. De plus en plus souvent, Ulyssia exhortait ses compagnes à la patience, leur rappelant que le jour de leur victoire était proche. Quel était exactement le plan des sœurs? Quel grand événement attendait-elles avec une impatience grandissante? Callan n'en savait rien, mais elle avait une certitude. Les boîtes qu'elle portait avec tout un fatras d'autres choses auraient un rôle capital à jouer dans cette affaire. Les boîtes volées au seigneur Ral. Les sœurs ne les quittaient presque jamais des yeux. La veille, Callan avait entendu Ulyssia répéter que les préparatifs commenceraient dès qu'elle aurait retrouvé Tovi et la troisième boîte. Quand elle prit enfin pied sur une zone plate, Callan ne put s'empêcher de soupirer de soulagement. Les quatre femmes et leur guide se trouvaient au pied d'un mur à demi écroulé. Par une grosse brèche, Callan put apercevoir la plaine éclairée par les rayons de lune au pied de l'autre versant du promontoire. Gillian s'engagea dans cette brèche et Callan lui emboîta le pas. Très curieusement, le mur d'enceinte était au minimum aussi épais qu'une petite maison. Pour avoir construit une protection pareille, les citadins de jadis devaient avoir sacrément peur des assaillants susceptibles de s'en prendre à eux. De l'autre côté de la muraille, la piste rectiligne et plate passait au milieu de toute une série de bâtiments serrés les uns contre les autres. Comme partout ailleurs, ces édifices ne tenaient plus debout que par miracle, et certains n'avaient déjà plus de toit. En règle générale, la muraille avait réussi à retenir les gravats, mais à certains endroits, la pression étant très forte, le mur avait cédé, ses débris se répandant sur le versant du promontoire et dans les douves qui entouraient la cité. Toujours guidées par Gillian, les quatre femmes s'engagèrent dans une rue étroite flanquée d'édifices en bien meilleur état. Si les façades avaient souffert du passage des siècles, les structures de ces étranges petits bâtiments semblaient avoir très bien résisté. Callan ne fut pas long à comprendre que la petite colonne avançait dans un cimetière. Dominant certaines chapelles ardentes, de majestueuses statues se dressaient comme des spectres au milieu des défunts. Tout en marchant au milieu des tombes, Callan jeta un coup d'œil dans le lointain et constata qu'une kyrielle d'autres bâtiments, pas des monuments aux morts cette fois, l'attendait paisiblement sous la lumière blafarde de la lune. Dans le ciel d'une clarté tout aussi blême, la prisonnière repéra Loki, le corbeau de Gillian. La petite fille ne lui avait jamais désigné l'oiseau, de peur qu'Ulyssia et les autres décident de lui faire un mauvais sort. Très observatrice, Callan avait remarqué que Gillian levait très souvent les yeux, comme si elle l'invitait à regarder en l'air. Lorsque les sœurs ne regardaient pas, Loki exécutait un programme d'acrobatie aérienne qui faisait sourire aux anges la fillette. Cet enfant semblait doté d'une très bonne nature. Au lieu de se lamenter sur son sort et sur celui de son grand-père, elle cherchait des raisons de se réjouir et d'espérer. À un moment, Armina repéra Loki, mais elle le prit pour un vautour décidé à suivre des proies potentielles jusqu'à ce qu'elle fasse montre d'une quelconque faiblesse. Bien entendu, Callan ne détrompa pas la sœur de l'obscurité.
« Encore combien de temps ?»
demanda Ulyssia en s'immobilisant au milieu des tombes. Callan trouva que la sœur regardait Gillian avec beaucoup de méfiance.
« Nous sommes presque arrivés, »
répondit la fillette.
« Devant nous, à travers ce bâtiment, s'ouvre le passage qui conduit jusqu'aux morts. »«
Le couloir qui conduit jusqu'aux morts ?»
la railla Cécilia.
« Tovi a toujours l'art d'en rajouter. »
« Moi, »
contredit Armina,
« je trouve que le nom est bien choisi. »«
Dans ce cas, avançons, »
lança Ulyssia, agacée. Elle fit signe à Gillian de repartir. L'enfant obéit. Guidant les quatre femmes hors du cimetière, elle les fit entrer dans la ville elle-même. Avec si peu de lumière, Callan n'aurait pas pu en jurer, mais il semblait que tout ici, les murs, les toits, les rues et tout le reste, étaient de la même couleur. Le gris des cendres. Et de la mort. Dans un silence surnaturel, la prisonnière avait l'impression d'avancer dans le squelette géant d'une cité, d'immenses os grisâtres dépourvus de chair depuis une éternité. Suivant une vaste promenade qui avait dû jadis être superbe, comme en témoignaient les vestiges de frises colorées sur les murs, Gillian avança jusqu'à un des grands bâtiments et franchit sans hésiter la majestueuse arche d'entrée. À l'intérieur, on n'y voyait presque rien. Se fiant au bruit des pas de Gillian, Callan avança prudemment sur un sol en mosaïque. Alors que les sœurs ne prêtaient aucune attention aux détails de ce genre, leur prisonnière, grâce aux rayons de lune, vit que les carreaux composaient l'image d'un cimetière entouré d'un grand mur. Il y avait même de petits personnages dans les allées. Trop occupé à reconstituer le motif, Callan se tordit le pied dans un trou, quelques carreaux manquant tout bêtement, et tomba à genoux.
Ulyssia la frappa aussitôt à l'arrière du crâne, l'envoyant s'étaler sur le sol. « Debout, stupide vache !»
cria la sœur.
Furieuse, elle tira un grand coup de pied dans les côtes de sa prisonnière.
Callan voulut obéir, mais avec le paquetage qu'elle portait sur le dos, ce n'était pas gagné d'avance.
« Oui, oui, ma sœur, »
souffla-t-elle en serrant les dents pour ne pas gémir de douleur.
« Je me redresse. »
Gillian vint s'interposer entre la sœur de l'obscurité et sa victime.
« Laissez-la tranquille. Comment oses-tu me donner un ordre? Je vais te briser le cou, sale petite vermine. »«
Si on écorchait vive son ami Callan, »
proposa Armina,
« nous pourrions abandonner ces restes aux vautours qui ont bien le droit de festoyer aussi. »
Ulyssia saisit Gillian par le col de sa robe.
« Écarte-toi, que je donne une bonne leçon à cette truie paresseuse. »
Décidément, la sœur était en verve de métaphores animales.
« Laissez-la tranquille !»
répéta Gillian, refusant de céder un pouce de terrain.
« Si on égorgeait plutôt cette sale gosse !»
marmonna Cécilia.
Nous n'avons plus besoin d'elle pour trouver Tovi, et le temps presse. »
Consciente qu'elle devait calmer les sœurs avant qu'elles aient mis leur menace à exécution, Callan mobilisa assez de force pour se relever. Dès que ce fut fait, elle tira Gillian en arrière, hors de portée d'Ulicia.
« Désolé, c'était ma faute, » s'excusa Callan. « Si nous repartions ?»
Elle fit mine de se remettre en chemin, mais ne fit pas un pas avant d'avoir reçu l'autorisation d'Ulicia. Une lueur meurtrière dans le regard, la sœur réfléchit un moment.
« Pas tout de suite, » dit-elle enfin. « D'abord, nous allons montrer à cette gamine comment nous te punissons.
Tu en prends trop à ton aise ces derniers temps, sans doute parce que nous sommes trop clémentes. »«
Laissez Callan en paix, »
lança Gillian, tandis que sa protectrice tentait de la pousser le plus loin possible des sœurs.
« Sinon tu feras quoi, petite idiote ?»
cria Ulicia, les poings sur les hanches.
« Je ne vous conduirai pas jusqu'à Tovi. Tu es vraiment stupide !»
cracha la sœur de l'obscurité.
« Nous savons où elle est. Pour la trouver, nous n'avons plus besoin de toi. Détrompez-vous. Il y a des milliers de tunnels sous ce bâtiment. Vous vous perdriez au milieu des ossements. Si vous ne fichez pas la paix à Callan, je ne vous montrerai pas le chemin. »
« Je sens la présence de Tovi, » annonça Cécilia.
« Égorge cet enfant, Ulicia. Mon âne suffira pour localiser notre compagne. Fais-moi confiance. »«
Je capte aussi la présence de Tovi, » dit Armina.
« La sentir ne vous aidera pas à la trouver, » insista Gillian. « En bas, parmi les ossements, vous serez très près d'elle, mais une seule mauvaise décision et vous marcherez des lieux et des lieux sans jamais la localiser. Des gens sont morts là-dessous parce qu'ils ne retrouvaient pas la sortie. »
Les mains croisées sur le ventre, Ulicia réfléchit à la nouvelle donne.
« Nous n'avons pas de temps à perdre, » dit-elle enfin. « Une sacrée chance que vous avez là, toutes les deux. En route. » « Ne vous en faites pas, Armina et Cécilia. Très bientôt, nous réglerons tous les comptes en suspens. Gillian, dépêche-toi de nous amener là où nous attend Tovi. Si elle perd patience, elle brisera un à un les os de ton grand-père, histoire de passer un peu le temps. »
Très inquiète, Gillian guida aussitôt les quatre femmes à travers un labyrinthe de pièces et de couloirs. Par endroits, les couloirs qu'elles remontèrent étaient à l'air libre. Ailleurs, ils étaient étroits et obscurs comme des venelles de bas-fond. Après avoir franchi l'arche de derrière du bâtiment, Gillian, Callan et les trois sœurs se retrouvèrent dans un autre cimetière. Sans hésiter ni ralentir, Gillian avança au milieu des tombes, parfois de simples monticules de terre et à d'autres occasions de somptueuses chapelles ardentes. La fillette s'immobilisa devant une pierre tombale qu'on avait poussée sur le côté pour dégager un grand trou qui s'enfonçait dans le sol.
« Tu veux que nous descendions dans ce trou à rats ?»
demanda Armina.
« Si vous voulez retrouver Tovi, c'est obligatoire. »
Gillian prit une lanterne, à côté de la pierre tombale, attendit qu'une sœur l'ait allumée avec son han, puis s'engagea dans le trou béant. L'escalier aux marches usées étant des plus abruptes, Callan eut du mal à ne pas basculer en avant, entraîné par le poids de son paquetage. Comme la lumière de la lanterne ne suffisait pas, les sœurs invoquèrent des flammes de poing, une initiative qui améliora nettement les choses. Après une très longue descente, Gillian et les quatre femmes durent remonter une série de tunnels creusés à même la roche des millénaires plus tôt. Toutes les niches ménagées dans ces parois de pierre contenaient des ossements.
« Attention à vos têtes !»
lança Gillian avant de franchir une arche très basse. Avec sa petite taille, elle ne risquait rien, mais les autres jugèrent plus prudent de se baisser. À la première intersection que rencontra le petit groupe, la fillette s'orienta sans même ralentir. Elle n'eut pas plus de difficultés aux autres croisements qu'il fallut négocier, comme si elle suivait un itinéraire balisé. Callan remarqua des empreintes sur le sol. Mais ça ne voulait pas dire grand-chose, car il y en avait aussi, nota-t-elle, à l'entrée des corridors que Gillian n'empruntait pas. À en juger par leur taille, ces traces de pas n'étaient pas celles de l'enfant. Les tunnels cédèrent la place à de grandes salles où étaient empilés des milliers d'ossements. Dans d'autres grottes, des niches accueillaient les fémurs, les tibias et les cages thoraciques, à croire que la place avait commencé à manquer. Plusieurs cavernes contenaient exclusivement des crânes, des milliers selon l'estimation de Callan. Ils étaient soigneusement rangés dans des niches, les orbites tournées vers l'extérieur. Alors que ses témoins à jamais muets les regardaient passer, Callan songea que ces têtes avaient jadis appartenu à des êtres vivants qui respiraient riaient et espéraient comme n'importe quel être humain. Des hommes et des femmes qui avaient connu la joie, la peur, le bonheur et le désespoir. Que la vie était donc fragile. Face à ces ossements, Callan se rappela à quel point il était facile de quitter le monde, y compris de son vivant, comme cela avait été le cas pour elle. Pour recouvrer sa vie, elle aurait tout donné. Et maintenant, grâce à Gillian, elle avait de nouveau un lien avec la réalité. En la voyant et en se souvenant d'elle, la petite lui rendait de sa substance, presque comme si elle était une personne normale. La petite colonne traversa encore des dizaines de salles, chacune étant consacrée à une catégorie d'os. Pour Callan, dissocier ainsi les éléments d'un squelette paraissait un peu choquant. Selon elle, il était plus respectueux de laisser les corps entiers, mais le manque de place expliquait peut-être beaucoup de choses, car il avait fallu rationaliser au maximum le système de stockage. Creuser des niches pour chaque cadavre s'était peut-être révélé trop épuisant, à moins que les survivants d'une grande épidémie n'aient pas eu le temps de raffiner les choses à ce point. À la surface, la ville était une construction serrée, donc l'espace vital devait être partout un enjeu majeur. Si les vivants et les morts devaient y cohabiter, il avait fallu que les uns et les autres fassent des concessions, si on pouvait exprimer les choses ainsi. Mais pourquoi ce confinement volontaire, alors que Casca était entouré d'un immense espace très propice à son extension? Bien sûr, le promontoire était plus facile à défendre, donc la localisation de la cité semblait judicieuse, mais il restait encore de la place au-delà du mur d'enceinte. Cela dit, déplacer une telle muraille, si on entendait la rebâtir à l'identique, n'était pas un jeu d'enfant. Pour entasser les morts ainsi, les antiques habitants de Casca avaient-ils un jour été contraints de faire passer le réalisme avant leurs sentiments? Peut-être à cause d'une guerre. Mais il se pouvait aussi qu'ils aient éprouvé une indifférence marquée par rapport au squelette. Après tout, que représentait-il? Quelle était la valeur d'un cadavre? Presque tout ce qui faisait l'individu avait disparu. Seule la vie importait. Et pour un mort, le monde cessait d'exister à la minute même où son cœur cessait de battre. Malgré tout, pour avoir construit une telle cité souterraine, les habitants de Casca avaient dû éprouver de l'attachement pour ses dépouilles. Autour des niches, on distinguait encore des dessins et des runes qui témoignaient d'une volonté religieuse ou mystique. Non, ces ossements avaient été aimés, respectés et honorés. « En irait-il de même pour elle ?» se demanda Callan, lorsqu'elle partirait pour le royaume des morts. « Probablement pas, puisque personne ne se souviendrait d'elle. » Soudain, elle éprouva une vive jalousie pour ces eaux que des parents et des amis avaient si tendrement traitées, leur assurant de traverser les siècles sans disparaître tout à fait. À présent, il ne restait plus que les morts. Qu'étaient devenus les habitants de Casca ? Un jour, nécessairement, il devait leur être arrivé malheur pour que la ville soit ainsi déserte. Mais qui avait enterré ces ultimes citoyens de Casca? À l'évidence, la ville était abandonnée depuis des lustres. Nul n'y venait jamais, à part Gillian et le petit groupe de nomades auquel elle appartenait. Soudain, Gillian s'arrêta devant une section à demi écroulée de la grande cité souterraine. Ici, comme à la surface, le sol était couvert de gravats. Perdant patience, Armina prit le poignet de la fillette. « Cette visite des catacombes devient ridicule. Vas-tu enfin cesser de nous faire tourner en rond ?»«
Nous sommes presque arrivés, » dit Gillian. « Suivez-moi et vous verrez. »«
Bon, » soupira Ulysia. « Un dernier effort, mais tu as intérêt à ne pas nous décevoir. »
Gillian contourna ce qui semblait être les débris d'une grande porte. Dans le sol, on voyait des cavités à l'endroit où devait avoir été articulé le grand battant, aujourd'hui désintégré. À la lumière de la lanterne, Callan vit que cette entrée donnait dans une grande salle aux murs couverts d'étagères creusées à même la roche. Sur ces rayonnages rudimentaires s'alignaient des centaines de livres à la reliure de cuir usée par le temps. D'après ce qu'on distinguait encore, ces ouvrages, aux titres souvent dorés à leur fin, avaient un jour constitué un véritable petit arc-en-ciel de couleurs. Soudain d'humeur moins morose, les sœurs s'émerveillèrent devant ces antiques ouvrages. Armina siffla admirativement alors qu'elle longeait un rayonnage et Cécilia éclata d'un rire enthousiaste. Ulysia elle-même souriait en étudiant les fabuleux volumes.
« Par là !»
lança Gillian, rappelant que l'excursion n'était pas tout à fait terminée.
Manifestant un tout nouvel enthousiasme, les sœurs suivirent la gamine dans une enfilade de salles débordant de livres. Apparemment, tous devaient être précieux, car les trois femmes regardaient à droite et à gauche en laissant échapper des petits cris de surprise.
« Que la lumière soit maudite !»
s'écria joyeusement Ulysia.
« Nous avons trouvé le site central de Casca. Je parie que Tovia a passé son temps à le chercher. »
« Et moi, je parie qu'elle l'a découvert avant nous, »
dit Cecilia, excitée comme une petite fille.
« Je pense que tu as raison, »
approuva Ulysia avec un petit sourire. Remontant un couloir à la voûte sculptée et aux murs ornés de moulures en forme de sarment de vigne, la petite colonne s'engagea dans un corridor latéral à la première intersection et continua son chemin jusqu'à une imposante double porte aux battants eux aussi décorés de motifs liés à la vigne et aux raisins. Chaque battant était assez grand pour constituer une large porte à lui seul, une configuration plutôt inhabituelle.
« Tovie est derrière cette porte, » dit Cecilia. « Enfin nous la retrouvons. »
« Il faut lancer les rituels dès cette nuit, » dit Armina.
Très calme, Ulysia posa la main sur le marteau de bronze qui faisait office de poignée de porte.
Si Tovie a réussi à trouver le livre, et je pense que oui, je ne vois pas pourquoi nous perdrions encore du temps. Les trois boîtes sont réunies et le gardien doit piaffer d'impatience. Plus vite il sortira de sa prison et plus tôt nous recevrons notre récompense.
Callan se demanda si elle avait une chance de saboter les plans des quatre sœurs. Si les rituels dont elle parlait allaient jusqu'à leur terme, tout serait perdu. La prisonnière en était certaine. Soudain, elle pensa aux boîtes qu'elle portait dans son paquetage. Dans quelques instants, lorsque les sœurs baisseraient un peu leur garde au moment des retrouvailles avec Tovie, pouvait-elle essayer d'en casser une, voire de détruire les deux? Si elle faisait ça, les sœurs la tueraient pour se venger, elle n'en doutait pas un instant, mais quelle importance en réalité! Si Ulysia et ses complices réussissaient, être vivante ou morte ne ferait plus tellement de différence.
« Avant tout, déclara Armina, je pense que nous devrons régler un assez vieux compte. Je n'ai pas oublié le temps où on nous envoyait sous la tente pour nous punir. Tant que le monde durera, je me souviendrai des outrages que nous ont fait subir les soudards de l'ordre. »« Très cher,
siffla Ulysia, le regard brillant de haine.
« Tu ne seras pas la seule à vouloir régler ce compte-là. »
Elle actionna le marteau de bronze.
« Finissons-en, mes sœurs !»